Et bonjour à tous. C'est un des joyaux du patrimoine français. Notre-Dame de Paris a été ravagée par un incendie le 15 avril dernier. Mais que s'est-il passé au cœur de l'édifice? Quelles conséquences la dissémination du plomb a-t-elle eu sur la population? Et dans quel état se trouve le bâtiment aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir avec vous, Marjolaine Corr. Bonjour.
Bonjour.
Et puis nous recevrons Jean Guinel. Bonjour également.
Bonjour.
Alors vous signez Histoire secrète de la DGSE, un livre qui nous emmène dans les coulisses de la Direction générale de la sécurité extérieure, une institution, on va le voir, qui a considérablement évolué ces dernières années.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Et les dernières infos venues du parvis de Notre-Dame. La principale, le feu est éteint. Il y a encore une centaine de pompiers sur place. Ils n'ont pas pu sauver la flèche et l'essentiel du toit hier, mais les tours sont...
Voilà, ça c'était le 16 avril dernier. Notre-Dame est en feu. L'incendie va émouvoir une grande partie de la planète au point que les dons vont affluer et que le chef de l'État va annoncer sa rénovation en 5 ans. Mais plus de 6 mois après, que sait-on vraiment de ce qui s'est passé? C'est donc ce qu'on va voir avec vous, Marjolaine Corr. Mais d'abord, rappelez-nous, ce chantier sur lequel le feu a pris, c'était quoi précisément?
Eh bien, c'était le premier chantier d'envergure depuis la restauration de Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Après cette époque, seuls les vitraux de la nef ont été remplacés en 1965 pour remettre un peu de couleur. Et puis, dans les années 90, la façade et le parvis ont été entièrement nettoyés lors d'une opération qui a pris plus de 10 ans. Lorsque Mgr Chauvet, l'actuel recteur de la cathédrale, arrive aux commandes de Notre-Dame, il trouve donc une façade rutilante, mais il découvre vite que ce n'est pas tout à fait la même chose du côté de ce qu'on appelle le chevet à l'arrière du bâtiment.
Dès mon arrivée à Notre-Dame, en septembre 2016, j'avais vu que le chevet de la cathédrale était très abîmé. Par exemple, il y a un des arcs-boutants qui tient l'ensemble de l'édifice, qui s'était détaché de l'édifice. Et je m'étais dit, si on ne fait rien, à la fin de mon mandat, il n'y aura peut-être même plus de chevet. Donc, tout de suite, j'ai lancé un grand plan de restauration. Les grands travaux, c'est-à-dire tout ce qui touchait l'extérieur, c'était urgent. Je vous parle pas des gargouilles qui, elles, tombaient les unes après les autres.
Ouais, donc une partie de l'édifice est délabrée et c'est pour ça qu'il lance un nouveau chantier.
Oui, un chantier de restauration de la flèche sur le toit de Notre-Dame et du chevet, c'est-à-dire de la partie arrière. Le chantier était prévu pour durer 10 à 15 ans. Il démarre en fait quelques semaines avant l'incendie avec la pose de l'échafaudage. Une vingtaine d'artisans sont alors présents pour monter cette structure qui devait être autoportante pour éviter d'endommager l'édifice, comme le raconte encore Mgr Chauvet.
L'échafaudage, ça a duré longtemps pour le mettre, hein, parce que c'est un bel échafaudage. Hein. Il faut que ça soit beau, il fallait pas que ça défigure la cathédrale. Donc, il n'était pas totalement posé. Il fallait pas qu'il soit trop haut, parce que il fallait enlever les statues. On a pu, comme ça, soulever les statues et les sortir de la cathédrale pour arriver rue du Cloître, qui est le long de la cathédrale. Et là, les camions les attendaient.
Ouais, les attendaient pour les mettre en lieu sûr. Et heureusement, finalement.
Oui, parce qu'à 8 jours près, ces statues en cuivre auraient sans doute fondu sous la violence du feu. Donc, après les avoir enlevées, les artisans venaient de reprendre le montage de l'échafaudage qui devait envelopper totalement la flèche.
Ouais, sauf que l'incendie va tout changer. Alors, on va mettre dès maintenant les pieds dans le plat, Marjolaine. Est-ce qu'on sait aujourd'hui si cet incendie est accidentel ou criminel?
Selon le procureur de la République, rien ne permet de dire que c'est criminel. Et il retient donc deux pistes. La première, ce serait une défaillance sur un coffret électrique et il aurait pu y avoir un court-circuit. La seconde, ce serait un mégot de cigarette qui aurait mis le feu. Les enquêteurs en ont retrouvé sur le chantier. Mais le chef de la conduite des opérations de la DRAC Île-de-France, Jean-Michel Guillemant, ne croit pas une seconde à l'hypothèse d'un mégot dans les combles où se trouvait la charpente.
Personne ne fumait dans le Grand Combe. C'était une évidence pour tout le monde. Ce serait criminel de faire ça. Donc jamais personne n'a fumé dans le Grand Combe. En plus, les gars qui travaillaient portaient un masque respiratoire à cause du plomb. Donc on ne peut pas fumer avec un masque. Sachant que l'inspection du travail passait régulièrement. Mais moi-même, je passais régulièrement. Jamais j'ai vu un mégot dans le comble.
Donc pas de mégot, pas d'électricité, d'appareil électrique. On a parlé de la cloche qui avait été électrifiée.
Tout ça paraissait aux normes et contrôlé. Donc Il n'y a pas de raison. Voilà, on s'interroge encore, mais bon, on verra les conclusions de l'enquête et ce qu'ils arriveront à trouver.
Ouais, donc tout ça reste ouvert. Mais ce qui paraît quand même assez clair aujourd'hui, Marjolaine, c'est que quelles que soient les causes de cet incendie, bah, Notre-Dame n'était pas en capacité d'y faire face.
Oui, et pour comprendre, il faut expliquer comment marche la sécurité incendie à Notre-Dame. Elle repose en fait sur trois piliers. Vous avez d'abord un chef d'équipe qui est employé par une entreprise de sécurité privée qui s'appelle Elitis. Il est confiné dans un PC sécurité qui est chargé de surveiller un tableau. Lorsqu'une alarme se déclenche, un voyant lumineux s'allume.
Alors ça, c'est le premier pilier?
Oui, le deuxième, c'est un autre agent dont le travail consiste à vérifier les sacs des visiteurs, mais qui est aussi chargé de faire des rondes au sein de la cathédrale. Mais lui est salarié du diocèse.
Alors lui, c'est le deuxième. Et le troisième?
Le troisième, c'est un autre gardien qui, lui, ne fait des rondes que dans les deux tours du parvis. Vous voyez les deux grandes tours qu'on voit en façade. C'est un endroit visité par le public, mais ce troisième employé, lui, il est rémunéré par le ministère de la Culture.
Alors attendez, vous êtes en train de me dire qu'il y a trois personnes chargées de surveiller ensemble la cathédrale, mais qu'aucun n'a le même employeur.
C'est ça. Et outre le fait qu'ils dépendent de chacun d'entités différentes, le problème c'est que l'agent qui peut faire des rondes au sein de la cathédrale, en réalité, je vous le disais, il est accaparé par la sécurité des visiteurs, et encore plus depuis le renforcement de Vigipirate.
Et puis surtout, il est seul.
Exactement, alors que jusque fin 2015, les agents de la société privé était deux. L'un de ses salariés a accepté de me parler sous le sceau de l'anonymat. On a donc fait lire son témoignage et lui considère qu'il manquait du personnel sur le site.
Vous trouvez normal que Notre-Dame de Paris soit moins protégée qu'un centre commercial ? Un centre commercial qui accueille 30 000 visiteurs par jour, comme la cathédrale, il doit compter un chef d'équipe et 11 agents de sécurité. À Notre-Dame, d'année en année, on nous a réduit les effectifs incendies et à la fin, il n'en restait plus qu'un.
Ouais, plus qu'un gardien, et encore la journée seulement.
Oui, ils étaient présents de 7h30 à 23h, et la nuit, il ne restait que le concierge de la cathédrale qui dormait.
Autant dire qu'il n'y avait donc personne. Et à cela, il faut ajouter une autre chose, Marjolaine, c'est que non seulement ils étaient peu nombreux, mais le boulot semble avoir parfois été fait avec, on va dire, une certaine légèreté.
Eh bien, c'est en tout cas ce qu'affirme l'agent qui a accepté de me parler sous le sceau de l'anonymat, et ce qu'il m'a confié est plutôt surprenant.
Régulièrement, l'unité de gestion des alarmes se déclenchait sans raison. On ne parvenait pas à la réenclencher ensuite, donc l'alarme ne jouait plus son rôle. On pouvait attendre des mois avant d'avoir une réparation. Quand on remontait les dysfonctionnements, on devait envoyer un fax à notre patron. C'est lui qui se chargeait de le transmettre au ministère de la Culture. Mais ces rapports étaient une source de tension avec le patron. Et rien ne changeait de toute façon, donc on en faisait de moins en moins.
Ah oui, donc on ne signalait pas certaines alertes.
Oui, mais ça n'est pas tout. J'ai aussi découvert que certaines personnes chargées de la sécurité ne se parlaient pas. Parce que vous avez les personnes qui surveillaient à l'intérieur, mais il y a aussi les pompiers qui venaient faire des inspections avec le ministère de la Culture. Et à en croire encore cet agent de sécurité, la communication fonctionnait effectivement mal.
Quand il y avait des inspections avec les pompiers et le ministère de la Culture, nous n'étions jamais conviés. Jamais ils ne nous demandaient comment se passait la protection incendie. On devait juste se plier aux exercices.
Oui, donc ça fait quand même beaucoup de handicap, effectivement, pour affronter un incendie pareil. Mais le jour du drame, il y a eu d'autres dysfonctionnements.
Oui, deux en fait. D'abord, un problème d'organisation. L'agent de surveillance de la société Elitis, qui travaillait depuis 7h30, aurait dû être relevé à 15h30. Mais son collègue ne s'est pas présenté. Il a donc enchaîné jusqu'au soir. Et donc, il était très fatigué.
Mais comment ça se fait que cet agent n'ait pas été relevé ?
Eh bien, j'ai demandé une interview au responsable de la société Elitis, mais il n'a pas souhaité répondre. Il m'a seulement envoyé quelques notes sur la gestion de l'incendie, dans lesquelles il ne fait pas mention précisément de cet épisode.
Et vous disiez qu'il y avait eu un autre dysfonctionnement ?
Oui, la mission de l'agent de sécurité privée est de ne jamais quitter du regard le tableau des alarmes. Mais comme il avait pris ses fonctions 2 jours plus tôt seulement, il ne connaissait pas les lieux, il aurait donc indiqué à son collègue un lieu de départ de l'incendie qui n'était pas le bon, ce qui lui a fait perdre du temps.
C'est-à-dire ?
Eh bien, on a d'abord fait une vérification dans les combles de la sacristie, alors qu'en fait, le feu est parti des combles qui se trouvaient sous la flèche. De précieuses minutes ont donc été perdues et les pompiers ont été appelés plus d'une demi-heure après le déclenchement de la première alarme.
Ouais, ce qui est quand même assez hallucinant. Et du côté du diocèse, qu'est-ce qu'on vous dit de ces dysfonctionnements ?
Eh bien, on botte en touche. Pour Mgr Chauvet, le diocèse n'avait aucun rôle dans la sécurité incendie.
Moi, je gère la sécurité des pèlerins, des touristes qui rentrent dans la cathédrale, mais c'est l'État qui gère la sécurité incendie et nous, nous n'avons rien à dire.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Bien, alors maintenant qu'on a vu dans quel état d'impréparation se trouvait Notre-Dame le soir du drame, Marjolaine Corre, on va revenir sur un sujet qui a fait polémique après l'incendie cette fois-ci, c'est celui du plomb qui s'est disséminé autour de l'édifice.
Oui, alors la cathédrale, comme beaucoup de monuments parisiens, comporte énormément de plomb. Selon les calculs des architectes qui ont pris en compte l'usure, il y avait entre 250 et 400 tonnes de plomb, principalement sous forme de feuilles, situées dans la toiture de la cathédrale.
Et ce plomb, il s'est répandu dans l'atmosphère ?
Alors on ne peut pas dire que 400 tonnes de plomb sont parties en fumée, une partie a fondu et a coulé dans la cathédrale, mais des particules de plomb se sont tout de même détachées sous l'effet du feu et les relevés montrent que des quantités énormes se sont éparpillées dans le quartier.
Énormes, c'est-à-dire ?
Eh bien par exemple, sur le parvis de la cathédrale, un an avant l'incendie, des relevés indiquaient la présence de 256 microgrammes de plomb par mètre carré. Alors qu'après l'incendie, cette valeur passe à 1 300 000 microgrammes par mètre carré. Alors ça, c'est un endroit bien précis.
Hein, oui, mais... ça paraît énorme. Hein.
Oui, mais cela indique bien qu'une quantité très élevée de plomb s'est échappée de Notre-Dame.
Et aujourd'hui, tout ça, ça a été nettoyé ?
Oui, mais jusqu'ici, ça a été insuffisant, comme l'explique le maire du 4e arrondissement, Ariel Veil.
Vous avez constaté que le parvis n'est toujours pas rouvert, en tout cas la partie qui doit rouvrir au public n'est toujours pas rouverte parce que il reste des zones où ça a été très très compliqué. On obtient quand même des bons résultats, mais si vous voulez, le résultat aujourd'hui, comme on part de seuils très très élevés, sont encore trop hauts pour rouvrir.
Ouais, donc on attend pour rouvrir ce parvis. Maintenant, quand on reparle de l'incendie dans le quartier, Marjolaine, on se rend compte que certains ont encore en travers de la gorge la façon dont on a géré l'après 15 avril.
Oui, parce que dès le lendemain de l'incendie, des écoles sont restées ouvertes et les employés de la préfecture, eux, sont venus travailler comme si de rien n'était. Et des analyses n'ont été lancées que 2 jours après le sinistre. Tout ça, ça a effectivement encore du mal à passer aujourd'hui. Écoutez ce que m'a raconté l'un des agents de la préfecture dont nous avons fait lire les propos.
Le lendemain de l'incendie, on nous a laissé aller travailler sans nous prévenir de rien. Pourtant, à l'extérieur, l'odeur nous prenait encore à la gorge. On avait même un goût de fer dans la bouche. Quand j'en ai parlé à mon supérieur, il m'a dit de ne pas faire de psychose. 15 jours après l'incendie, nous avons vu débarquer dans la cour des ouvriers en combinaison intégrale. Ils ont entièrement nettoyé l'extérieur du bâtiment, mais en soulevant des poussières, ils ont provoqué des toux chez tous les agents toute la journée. On nous a finalement distribué des lingettes pour nettoyer nos bureaux 3 semaines après l'incendie. Et les lingettes ont fini dans les corbeilles à papier au lieu d'être récupérées et traitées.
Ouais, donc des agents se sont inquiétés et cette inquiétude, elle a été partagée par une ONG.
Oui, l'association de défense de l'environnement Robin des Bois. Ses responsables ont fait des pieds et des mains pour obtenir les résultats des analyses. Des résultats qui n'ont été communiqués que beaucoup plus tard, comme l'explique Jackie Bonnemain, le président de l'association.
On a réussi à faire en sorte que les pouvoirs publics enfin, reconnaissent le danger, multiplient les prélèvements et on leur a reproché évidemment de n'avoir diffusé ces prélèvements et les résultats que le 18 juillet s'est aperçu conformément à ce qu'on pensait qu'il y avait des teneurs extrêmement importantes. Et donc ça, c'est l'autre axe de notre travail, c'est le terrible décalage entre les prélèvements et la publication des analyses qui a empêché les habitants de prendre les recommandations nécessaires.
Et je précise que Robin des Bois a porté plainte contre X car il souhaite qu'il y ait une enquête judiciaire sur la gestion de l'affaire Duplomb.
Oui, l'Agence régionale de santé, elle, Marjolaine, qu'est-ce qu'elle en dit qu'on ait ainsi laissé revenir les personnels de la préfecture et les enfants dès le lendemain de l'incendie ?
Eh bien, l'ARS estime avoir informé assez rapidement sur la conduite à tenir. C'est ce que pense Luc Ginot, le directeur de la santé publique de l'Agence Île-de-France.
Les premières informations ont été diffusées dans les jours qui ont suivi l'incendie Notre-Dame, une fois qu'on a eu les premiers résultats de plomb dans l'environnement immédiat. Et à partir de là, on a ensuite enclenché toute une stratégie de recherche de plomb en essayant de comprendre qu'est-ce qui pouvait se passer dans un espace qui est la voirie, qui est un espace sur lequel il n'y a pas de normes, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas, y compris, de bonnes pratiques recommandées. Et donc l'agence a dû improviser, si j'ose dire, une démarche de documentation et de prévention.
Improviser une démarche de documentation et de prévention, ça veut dire quoi ?
Eh bien, il faut savoir qu'il existe des seuils de plomb maximaux pour des lieux bien spécifiques, comme les écoles et les crèches. Mais dans l'espace public, il n'y a aucune norme. Donc, faute de réglementation, les pouvoirs publics ont dû décider d'eux-mêmes d'un seuil maximal de 5000 microgrammes de plomb par mètre carré.
Seuil à partir duquel, donc, on doit nettoyer les lieux. Mais il se base sur quoi pour décider de ce seuil ?
Eh bien, sur ce qu'on appelle le bruit de fond parisien. Il y a beaucoup de plomb dans les bâtiments haussmanniens et dans les monuments historiques. Ces 5000 microgrammes par mètre carré, c'était donc un moyen de faire la différence entre la présence habituelle de plomb et la présence exceptionnelle du plomb provenant de Notre-Dame.
Mais si je vous entends bien donc Marjolaine, on ne sait toujours pas à quel niveau de plomb, pour faire simple, on doit interdire aux gens de marcher quelque part.
C'est ça, et l'incendie de Notre-Dame a cruellement mis l'accent là-dessus. Hein. Et c'est ce que relève Sophie Hérault, elle est chercheuse au laboratoire de sciences du climat et de l'environnement et spécialiste des questions de plomb.
Une des bonnes choses de ce triste événement, c'est de réfléchir à une valeur seuil de concentration de ce plomb dans les poussières extérieures. C'est une question qu'on n'a pas bien traitée en France jusqu'ici, parce que la source principale de contamination, et notamment pour les enfants, c'est la poussière intérieure avec des logements vétustes où on a des peintures au plomb qui sont dégradées. Et ça, c'est vrai que c'est tellement une exposition forte dès le plus jeune âge que ça a un petit peu mis l'éteignoir sur la question de la contamination à l'extérieur.
Oui, à l'extérieur, donc dans l'environnement. Maintenant, ce qui nous importe aujourd'hui, Marjolaine, c'est en fait de savoir si oui ou non la santé des gens, elle, et des enfants donc, a été mise en danger.
Alors ça, on ne le mesure pas dans l'air ou sur le bitume, mais bien dans le sang. C'est ce qu'on appelle une plombémie. Et de ce côté-là, les mesures effectuées sont plutôt rassurantes.
C'est-à-dire ?
Eh bien, les agents de la préfecture, eux, sont très majoritairement autour de 20 microgrammes de plomb par litre de sang. C'est assez habituel pour les adultes. Et d'ailleurs, 95% des adultes en France ont moins de 73 microgrammes de plomb par litre de sang.
Donc, a priori, il n'y aurait rien d'alarmant. Et du côté des enfants ?
Eh bien, je vais laisser le toxicologue Jérôme Langrand vous répondre. Il exerce au centre antipoison de Paris.
Autour de Notre-Dame, on trouve grossièrement 90% d'enfants en dessous de 25, ce qui est en fait ce qu'on avait déjà dans l'étude en population générale Saturninfe fin des années 2000. À peu près 10% qui dépassent 25 et puis 1 à 2% qui dépassent 50. Donc c'est la répartition qu'on voyait dans l'étude Saturninfe fin des années 2000. Donc évidemment, ça veut dire que si jamais il y a un effet de Notre-Dame sur les plombémies, on ne l'observe pas.
Oui, donc lui se veut plutôt rassurant.
Oui, mais pour lui, le sujet dépasse de loin la seule problématique de Notre-Dame, qui est du coup très surveillée. Il estime que de nombreux lieux à Paris et en France sont bien plus préoccupants.
Les chantiers émissifs de plomb, il y en a autant qu'il y a de plomb dans le bâti parisien. Donc à chaque fois que vous intervenez sur un monument historique, que ça soit évidemment Notre-Dame, mais la Tour Eiffel, des bâtiments comme la Samaritaine ou le Grand Palais, enfin tout ce qui contient des ferronneries peintes, là où il y a des métaux à découper, enfin tout ce qui contient du plomb, il y a énormément de chantiers qui sont émissifs de plomb. Nous, classiquement, dans notre consultation au centre antipoison, on voit des ouvriers qui ont des plombémies élevés au-dessus de 400 largement, parce qu'ils interviennent sur ce type de bâtiment depuis toujours.
Secret d'info sur France Inter.
Bien, alors après avoir été en partie rassuré pour ce qui est d'une éventuelle contamination au plomb des riverains de Notre-Dame, Marjolaine Corps, même si on peut s'interroger sur la non-application partielle en tout cas du principe de précaution, on va maintenant examiner autre chose, on va examiner ce qui va se passer dans les mois qui viennent, mais cette fois-ci pour ce qui concerne la cathédrale elle-même.
Eh bien la première chose qu'on va faire, c'est d'attendre en fait, parce qu'après les quantités d'eau qui ont été déversées pour éteindre l'incendie, la cathédrale est humide et il va falloir encore plusieurs semaines pour qu'elle sèche complètement. Et ça, c'est Frédéric Létoffé, le coprésident du Groupement National des Entreprises de Monuments Historiques, qui nous l'explique.
Il y a eu beaucoup d'humidité qui sont passées donc par les voûtes, sont descendues dans les reins des voûtes, c'est la naissance, si vous voulez, de la voûte, qui sont chargées d'une maçonnerie assez importante. Et cette maçonnerie est vraiment gorgée d'eau encore actuellement. On a déjà vu, il y a quelques semaines, quelques éléments de pierre qui sont tombés suite à la rétractation en fait du séchage. Donc il faut effectivement attendre que le séchage soit totalement résorbé pour qu'on puisse avoir un diagnostic complet et précis des structures.
Donc pour l'instant, on attend.
Oui, ce qui n'empêche pas d'avoir tout de même quelques indications grâce à l'un des architectes qui n'a pas souhaité s'exprimer en son nom et dont nous avons fait lire les propos. Voici l'état des lieux qu'il fait du bâtiment.
Aucune déformation n'a été remarquée au niveau des voûtes, même si nous avons relevé un affaissement de 6 cm à un endroit. Aucun vitrail n'a été détruit, plusieurs pierres se sont détachées, nous tâchons de les récupérer et de les classer pour les repositionner au bon endroit lorsque la reconstruction commencera. En revanche, l'un des balcons est en train de se déliter, des pierres sont fendues. L'ensemble est contenu avec une multitude de sangles pour tenir jusqu'aux travaux de consolidation. Une fois que l'édifice sera sécurisé, nous devrons vérifier qu'il n'y a pas de fracture en profondeur. Nous avons toutefois remarqué une humidité au sol qui laisse apparaître des traces inquiétantes.
Des traces inquiétantes, c'est-à-dire ?
Eh bien, ces traces se situent en fait en dessous du trou laissé par l'effondrement de la flèche. Quand il pleut, le sol est trempé et à chaque séchage, les joints s'affaissent et affaissent la structure de quelques millimètres. Et il faudra donc fermer ce trou pour régler le problème.
Et ensuite, c'est quoi les prochaines étapes ?
Eh bien déjà, enlever l'échafaudage extérieur qui s'est soudé sous l'effet de la chaleur. Et pour ça, il faut monter un autre échafaudage autour du premier. Et ensuite seulement, on aura une vision plus claire de l'état dans lequel la cathédrale se trouve, comme l'explique encore Frédéric Létoffé.
Une fois que la sécurisation sera terminée courant 2020, le diagnostic précis va pouvoir être engagé. Donc là, ça va prendre encore quelques mois quand même, parce que avant de remonter une charpente, il va falloir consolider et restaurer totalement la maçonnerie en pierre. C'est le gros challenge qui va arriver dans les prochains mois. C'est l'état structurel de ces maçonneries qui va nous déterminer le délai exact pour reprendre toutes ces maçonneries convenablement avant de poser cette charpente et cette future couverture.
Mais si ça prend autant de temps, Marjolaine, est-ce qu'on va vraiment pouvoir la reconstruire en 5 ans, cette cathédrale, comme Emmanuel Macron l'avait annoncé ?
Écoutez, rien n'est impossible, mais ça semble quand même assez improbable. En réalité, les choses vont peut-être se passer de manière un peu plus subtile que ça. On peut très bien imaginer qu'une partie soit rouverte sans que le bâtiment soit pour autant totalement reconstruit. C'est en tout cas l'hypothèse de Frédéric Létoffé.
J'avais annoncé le lendemain de l'incendie qu'il fallait entre 10 et 15 ans pour faire une restauration. D'ailleurs, avant l'incendie, le programme de restauration était lancé dans ce délai-là. Moi, je vais dire que à notre niveau, rouvrir au culte dans 5 ans, ça peut être réalisable, parce que assembler de la charpente et restaurer la partie de la nef, oui, mais la totalité de Notre-Dame, non.
Donc lui, il parie plutôt sur une ouverture partielle de la cathédrale. Maintenant, et on va conclure là-dessus, Marjolaine, un mot des dons. On avait annoncé près d'1 milliard d'euros de dons. On en est où aujourd'hui ?
Eh bien, les compteurs sont très exactement à 922 millions d'euros, selon le dernier décompte de la mi-octobre. Mais attention, il s'agit toujours de promesses de dons.
Et pourquoi ils n'ont pas encore été versés, ces dons ?
Eh bien, parce que ce n'est pas si simple. Les trois fondations qui s'occupent du chantier, c'est-à-dire la Fondation Notre-Dame, la Fondation du Patrimoine et la Fondation de France, font actuellement un gros travail pour sécuriser ces dons en signant des conventions avec les donateurs. Mais il n'est pas dit qu'ils toucheront directement l'argent. En fait, des groupes comme LVMH ou Pinot, dont on a beaucoup entendu parler, vont créer des structures spécifiques qui paieront elles-mêmes les travaux aux entreprises qui travailleront sur le chantier.
À suivre donc. Merci pour cette enquête, Marjolaine Corr. Alors je précise qu'on peut la réécouter, votre enquête, la lire, la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez également nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire, comme chaque semaine, sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter, Investigation RF. Mais surtout, restez avec nous dans quelques instants avec notre invité. Nous allons pénétrer à l'intérieur du vrai Bureau des Légendes. This dream I'm dreaming, won't you wake me up tonight? Cause this life I'm living doesn't really feel like mine. This strange dream I'm dreaming, if it ain't wrong, it don't feel right. Never thought you would leave me. I never thought I'd have to start again. Somebody wake me up. Don't you wish me were dreaming? Un peu de mélancolie ne nuit pas, au contraire, d'ailleurs on en redemande. C'était Dream for Dreaming, extrait du dernier album du Canadien Patrick Watson.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Alors nous recevons maintenant Jean Guinel, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Histoire secrète de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. C'est une plongée au cœur de cette direction composée en grande partie de ce qu'on appelle les espions. Alors déjà ce que vous remarquez, c'est que depuis 2008, il y a une montée en puissance clairement de la DGSE. 4400, c'est ça, employés en 2008, 7000 en 2019, c'est énorme.
Eh ben, c'est effectivement le terme de montée en puissance est bon. C'est-à-dire que les fonctions de la DGSE, notamment les fonctions techniques, exigent de plus en plus de moyens humains, de moyens matériels, de moyens de calcul. Et tout ça, il faut du monde pour ça. Et il faut aussi, dans un monde, tous nos auditeurs le voient, que le monde d'aujourd'hui est totalement cul par-dessus tête dans tous les sens. C'est-à-dire depuis les printemps arabes, l'élection de Trump, le Brexit, le Brésil...
L'Argentine, Chine,
voilà, enfin. La Russie. Tout ça exige non pas forcément de faire de l'espionnage dans ces zones,
mais d'observer
avec des moyens secrets, c'est-à-dire qui sont différents de ceux de la diplomatie. C'est-à-dire que si le président de la République a besoin de comprendre quelque chose qui est vraiment difficile et qui voit pas, on peut envoyer des agents secrets qui vont faire un travail complémentaire de celui des diplomates.
Alors parlons-en des recrutements, parce que vous dites que pour être recruter, il vaut mieux, par exemple, ne pas fréquenter de journalistes ou d'avocats.
C'est pas conseillé.
Il vaut mieux avoir des parents militaires.
Exactement. C'est pas conseillé de conseiller de... Moi, j'ai des jeunes...
Je suis grillé, moi. Je pourrais jamais être agent secret.
Ben non. Sauf que quand on est journaliste, des fois, ce qui est la noble profession que nous exerçons tous les deux, il arrive que des journalistes fassent un peu des extras et se fassent payer par les services.
Ah oui, ça existe,
Oui. Ouais. Je trouve pas que c'est une bonne idée. Mais oui, bien sûr. Il vaut mieux être propre sur soi, c'est sûr.
Alors, faut que vous nous parliez de l'école de Ploufragan dans les Côtes d'Armor, qui serait une pépinière de la DGSE. Qu'est-ce que c'est, ça?
Alors, l'école de Ploufragan, c'est une très belle histoire que je trouve tellement symptomatique de la nécessité d'un ancrage des services de renseignement dans la population. C'est-à-dire que c'était une initialement, à la fin des années 40, c'était une école catholique de radio pour la marine marchande. Et juste à côté, à Perros-Guirec, il y avait une énorme station de contrôle radioélectrique qui écoutait les communications au-delà de la mer et tout ça. Et l'école s'est progressivement transformée en centre de formation pour ces techniciens-là. Et puis, elle est tombée en déshérence. Et donc, ils ont eu l'idée de se rapprocher du CNAM.
Conservatoire des Arts et Métiers.
Conservatoire des Arts et Métiers. Et donc, le CNAM a sauté sur l'occasion. Et ils forment les gens pour la communauté du renseignement, à l'analyse, à l'interception, aux langues, et pour les amener au concours pour les techniciens très très utiles au service, pour toute la communauté du renseignement.
C'est effectivement une pépinière.
Mais surtout la direction technique de la DGSE.
Ouais. Alors, vous dites aussi qu'on recrute sur LinkedIn, le fameux réseau pour cadres notamment. Enfin, c'est plutôt surprenant, non?
Alors...
C'est un peu des petites annonces.
Oui, mais si vous voulez, ça fait partie de cette ouverture. On ne sait pas ce qu'ils font avec les gens qui recrutent, évidemment. Mais ils disent ce dont ils ont besoin. Donc on a besoin, disent-ils, ils rédigent une petite annonce avec un nom inventé de recruteur qui va recruter des techniciens réseau de tel truc, des programmeurs, des gens qui connaissent les télécoms. Et puis l'une des manières de rentrer dans ce truc-là, qui est absolument diabolique, c'est de diriger les gens vers des pages internet où ils doivent résoudre des énigmes pour pouvoir... Autant vous dire que moi, j'ai même pas réussi à me balader sur la page.
De toute façon, vous êtes journaliste, vous. C'est déjà,
oui, mais
c'est déjà
j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait derrière. Et j'ai pas réussi à passer la première page. Et il y a eu, l'année dernière, 20 000 personnes qui ont essayé de passer cette épreuve en ligne, annoncée sur LinkedIn, et 50 qui sont arrivées jusqu'au bout.
Alors parlons du Bureau des Légendes, parce que paradoxalement, il y a quand même un lien entre le Bureau des Légendes, juste une fiction hors sol, un lien pas seulement dans le scénario,
un lien très étroit,
mais
oui.
Dans la réalisation elle-même.
Oui, il y a un lien très étroit qui n'est pas mis en avant par la production du Bureau des Légendes et que la DGSE admet du bout des lèvres. Mais en fait, le Bureau des Légendes, c'est une œuvre de fiction totale. L'endroit qu'on appelle le Bureau des Légendes, c'est une magnifique invention d'Éric Rochon. C'est assez étonnant. Mais ils sont vraiment en contact et je crois comprendre que le réalisateur, enfin qu'Éric Rochon, fait valider ses idées au sens où, quand il a une idée, il leur demande est-ce que c'est complètement dingue et complètement impossible ou est-ce que on est dans le domaine quand même du plausible.
Mais c'est pas de la censure, c'est de la consultation.
Non, c'est pas du tout de la censure, c'est pas du... La DGSE n'est pas coproductrice, m'a-t-elle assuré. Les choses ont été assez compliquées, assez longues à se mettre en place, mais maintenant ils sont vraiment dans une relation de confiance et la DGSE se sert ouvertement du Bureau des Légendes pour recruter. Parce que au sein même de la DGSE, on dit qu'il y a des OTBDL, c'est-à-dire des officiers traitants Bureau des Légendes, qui sont venus, qui ont cherché à passer le concours de la DGSE.
Parce qu'ils avaient vu ça
dans le Bureau des Légendes. Alors après, quand ils arrivent, évidemment, il faut leur expliquer que ce qu'ils ont vu dans le Bureau des Légendes, c'est pas du tout la réalité.
Ouais. Vous dites que ça aurait créé des tensions entre Bernard Bajolet, donc le patron de la DGSE à l'époque, et le cabinet de Jean-Yves Le Drian.
Oui. Alors, Bernard Bajolet, Jean-Yves Le Drian et son directeur de cabinet d'alors, Cédric Lewandowski, sont trois hommes qu'on pourrait dire, très aimablement, ombrageux. Chacun est fort de ses prérogatives et tout à fait désireux de les faire valoir. Et Bajolet, il avait estimé que le Bureau des Légendes, c'était l'affaire de la DGSE, c'était pas l'affaire du... Voilà. Et quand il y a eu la première soirée, la première projection devant les personnels du service, le cabinet du ministre voulait être présent pour participer à la fiesta. Et il leur a dit non. Donc ça a été assez chaud. Et puis après, ça s'est arrangé, d'autant plus que le ministère de la Défense, dans le cadre de sa mission cinéma, prête des locaux aux réalisateurs.
Alors la DGSE a toujours été une direction extrêmement secrète. On a vu qu'avec François Hollande, il y a eu des fuites, notamment dans Le Monde. Quel est le rapport qu'Emmanuel Macron lui entretient avec ce service, avec cette direction?
J'ai envie de vous dire que Nicolas Sarkozy avait un rapport un peu passionné, mais tout à fait décomplexé. Que François Hollande était, on l'a vu... était un curieux, c'était Candide qui racontait tout, Donc ça, c'est pas possible. Emmanuel Macron, j'ai envie de... Je ne sais pas. Je crois qu'on est dans une relation plus sereine, plus professionnelle.
Voilà. Ce terrain-là.
Oui, il est pour l'instant à ce stade, les secrets ne sont pas diffusés et l'Élysée est totalement fermée à la dans ce domaine-là. Hein. Même si on appelle l'Élysée pour demander quelle heure il va faire à 12h30, ils vous répondent pas. Ils disent c'est secret, on peut pas le dire, vous pouvez pas savoir. Vous demandez des entretiens, on vous répond pas ou on vous répond le jour où vous rendez vos épreuves 6 mois après la demande. Donc voilà, il y a mais heureusement, on vit dans une démocratie, donc il y a des gens qui parlent quand même.
Merci Jean Guinel, merci donc de toutes ces explications. Je rappelle que votre livre s'appelle « Histoire secrète de la DGSE » et je précise qu'il est édité chez Robert Laffont. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer et réalisée par Christophe Imbert, avec une programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique il y avait Louis Audebert et Fabrice Desmaz. Dans quelques instants, dans la librairie francophone, Emmanuel Kérab recevra Marlène Jobert pour parler de son nouveau conte musical, une nouvelle adaptation du Livre de la Jungle. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.